Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il avait été policier durant 50 ans, elle était encore et toujours un policier un peu particulier, bien sûr. Pensez, la police scientifique, quel univers! Une carrière a priori décriée. Edmond Locard avait accordé en 1955 une série d'entretiens radiophoniques à Léon Zitrone et Madeleine Finidori. Quelques conseils aux auteurs de romans policiers, des réflexions sur la cryptographie, la différence entre policier et détective, les lettres anonymes, les faux testaments et les crimes parfaits. Et évidemment les empreintes digitales. C'était bien sûr avant l'ADN et ses informations très précises, puisque cet entretien fut diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne le 8 septembre 1955.
Au cours de notre dernier entretien, le docteur Locard nous avait dit combien il serait souhaitable, selon lui, d'inviter les auteurs de romans policiers à aller faire un stage dans les laboratoires de police.
Docteur, quels sont les moyens modernes de détection employés véritablement par la police ?
Eh bien, les moyens en ce qui concerne les méthodes de laboratoire, c'est-à-dire la recherche de la preuve indiciale, c'est infiniment varié. L'erreur, justement, des romanciers qui traitent de ces questions, c'est de ne jamais parler que des empreintes digitales. C'est magnifique, les empreintes digitales. Je dirais, pour parler le langage de Einstein, que c'est une preuve privilégiée. Mais en dehors de ça, on peut trouver des empreintes de toute espèce de choses, des empreintes de dents, des empreintes d'ongles, des traces du corps tout entier, des cheveux, des poussières. L'analyse des poussières est une ressource infinie, illimitée. Quand on a la sagesse, avec un vacuum cleaner spécial, de pomper les poussières sur les vêtements, sur les cheveux et dans le creux des oreilles, et d'analyser ces poussières, on peut savoir exactement ce que l'homme a fait. Un de mes collègues de Marseille, Icard, qui s'est spécialisé dans cette question, s'est amusé à déterminer le bateau qu'avait déchargé une série de dockers en examinant simplement les poussières de leurs mains et les poussières de leurs oreilles.
Et vous accordez, docteur, une très grande importance à la valeur des documents écrits, dans leur expertise.
Ah, ça, alors, j'en parle avec plaisir, parce que c'est la question qui m'intéresse personnellement le plus. J'ai fait, à la date de ce matin, 10 742 expertises de lettres anonymes.
10 742
Exactement.
Expertises.
Eh bien, ça constitue, somme toute, d'abord une preuve que je ne suis pas tout jeune, mais d'autre part, une sérieuse documentation. Or, je crois que pour l'expertise des écritures, l'essentiel, c'est d'avoir du bon sens, bien entendu, mais c'est surtout l'expérience, parce que c'est un art infiniment difficile et délicat, et que d'autre part, l'expert en écriture, trop longtemps, a été le bouffon du procès pénal, a été celui sur lequel les avocats se lancent le sabre en avant, et avec vraiment trop de facilité et trop de raison. Mais il faut distinguer avec soin deux choses dans l'expertise des documents écrits. C'est d'une part les faux physiques, c'est-à-dire les grattages, les lavages et les altérations, le gommage par exemple, et d'autre part l'imitation de l'écriture. Pour la seconde chose, ce n'est qu'une question de bon sens. Pour la première chose, c'est une question de physique et de chimie pour laquelle on est très solidement muni actuellement. Quand on vous apporte une pièce en disant « est-ce que la signature est fausse ?», si vous examinez le contact de la dernière ligne du texte avec la signature, si la dernière ligne chevauche la signature, si elle passe par-dessus, c'est qu'elle a été faite après. C'est donc par conséquent que cette dernière ligne est un faux, puisqu'elle a été ajoutée. Des histoires de ce genre sont extrêmement fréquentes, et aussi, avec les techniques actuelles, on peut dire à très peu près à quelle date un document a été écrit. J'ai été consulté bien souvent pour des affaires de ce genre et quelques-unes retentissantes, entre autres une célèbre affaire de manuscrit d'un slave qui avait passé le rideau de fer et qui avait fourni des renseignements et on avait cru qu'il l'avait fait au dernier moment et fabriqué. L'encre était ancienne.
Mais à quelle époque avez-vous eu à vous occuper de cette
Il
affaire
Il y a de ça 5 ou 6 ans. 5 ans.
Oui, c'est récent.
Oui. Eh bien, dans une affaire de ce genre, l'analyse chimique de l'encre par des méthodes très au point, très précises, permettent de donner des renseignements dont on est tout à fait sûr, parce que c'est recoupé et contrôlé.
Docteur, j'ai l'impression que vous avez créé une discipline. Vous avez instauré une discipline en la matière.
Oui, enfin, je dis quelquefois, j'ai fabriqué mon métier.
Oui, c'est exact.
Évidemment, il y avait énormément à faire parce que beaucoup de gens et de très bons esprits et des gens beaucoup plus instruits que moi et beaucoup plus intelligents ne voulaient pas s'embarquer dans cette carrière parce qu'elle était trop décriée.
Pouvez-vous me dire, docteur, aussi si la lecture des cryptogrammes relève de votre activité ?
Ah, sûrement. Il y a deux types d'opérations pour la cryptographie. Il y a les correspondances de criminels et puis il y a les correspondances d'espions. Je ne peux rien dire et je ne veux rien dire sur les correspondances d'espions, quoique ce soit un sujet infiniment intéressant. Mais en ce qui concerne les correspondances de criminels, il faut bien s'imaginer que les parois des cellules sont la chose la plus perméable qu'il y ait au monde. Il est absolument certain que dans les prisons, le courrier circule mieux en moyenne que dans la vie civile.
Nous l'avons vu, docteur, je vous demande pardon de vous interrompre, durant l'occupation, quand nous avions des internés par les Allemands.
Oui.
Ils étaient au courant mieux que nous des nouvelles.
Ça a continué. Et alors, il y a des chiffres, quelquefois assez compliqués, qu'emploient les détenus, parce qu'ils ont tout le temps, ils ont des loisirs infinis, ils peuvent employer des méthodes complexes. Je ne parle pas de ce qui consiste à écrire avec le doigt dans la graisse d'une assiette sale. Les camarades chargés du lavage le lisent, ça c'est élémentaire. Je ne parle pas non plus des écritures avec de l'oignon ou avec du citron qu'on arrive à se procurer à la cantine, mais je parle de langage chiffré avec des systèmes cryptographiques comme le double relevé ou comme la substitution ou comme la transposition. Et vous trouverez dans Jules Verne, par exemple, des cryptogrammes de ce genre, mal déchiffrés d'ailleurs, mais que les criminels savent très bien l'employer et déchiffrer. Et je me rappelle qu'un jour, un inspecteur de la police parisienne promenait dans sa poche un cryptogramme très court, malheureusement, parce que plus ils sont courts, plus ils sont difficiles, un cryptogramme très court, et il me dit « Je vais aller chercher le dossier au rez-de-chaussée. » Oh, je lui dis « Laissez-moi non ce papier, j'y jetterai un coup d'œil. » Et je me dis, il faut 6 minutes pour descendre du grenier où nous sommes, à la cave où sont les archives, le temps de remonter, il faut que je l'ai déchiffré en 6 minutes. Et alors, au lieu d'employer les méthodes classiques, je n'avais pas le temps, je me suis dit, il y a un groupe 16, qui est de beaucoup le plus fréquent. Par conséquent, 16 représente la lettre E, qu'elle peut être la clé dans laquelle il n'y a pas de avant le 16e rang. C'est extrêmement rare, parce que le est tellement fréquent.
J'interromps le docteur pour préciser ce point. Une clé est un groupe de mots dans lequel à chacune des lettres correspond un chiffre, 1, 2, 3, 4, etc. Pour décrypter un document chiffré, il faut donc savoir à quelle lettre correspond chaque chiffre. Or, dans la langue française, la lettre la plus fréquemment employée est la lettre E. Dans le document que le docteur avait dans les mains, et qui était une lettre écrite par un malandrin à son complice et interceptée par le policier, le chiffre 16 correspondait donc à la lettre E. Le problème était le suivant, quel est le groupe de mots dans lequel la lettre E vient seulement en 16e rang ?
Et alors je me suis dit, pour un apache qui n'a pas un lexique extrêmement étendu, ça ne peut être que par Lyon-Marseille, c'était ça. Et alors quand l'inspecteur est remonté, nous avions lu le texte et je lui ai dit, je ne demande en fait d'honoraire que la permission d'assister ce soir à l'opération puisque nous avons le lieu et l'heure auquel le cambriolage doivent être commis. Et en effet, nous avons été. J'ai récolté d'ailleurs un horion assez fort quand la pache nous a trouvés dans le magasin.
Docteur, quelle est à votre avis alors la différence entre l'éducation que doit recevoir un policier et l'éducation que doit recevoir un détective?
C'est une colle de linguistique extrêmement difficile. attendu que le mot anglais « détective » veut dire « policier ». Alors, on pourrait supposer que c'est synonyme. C'est pas synonyme du tout. Le détective, au sens propre, est celui qui détecte les criminels, c'est-à-dire qui les découvre. Le détective a besoin, par conséquent, d'une éducation toute spéciale. Dans la pratique, on n'apprend pas le métier de détective. T'as tort, d'ailleurs. Il y a bien des écoles de police, j'en ai connu une en Angleterre, une en Allemagne, deux ou trois aux États-Unis et une aux environs de Lyon. Mais ce n'est pas précisément le métier de détective qu'on y apprend, c'est vraiment trop spécial. Il faudrait apprendre à avoir du flair, je ne sais pas bien si ça peut s'apprendre. Et puis il faut apprendre à avoir du bon sens, et ça vous savez bien que c'est complètement inapprenable.
C'est sans doute la raison pour laquelle il existe d'excellents détectives privés.
Il y a de très bons détectives privés, c'est un métier décrié à tort. Il y a de nombreux cas où il faut se servir de la police privée. D'abord, pour toute espèce d'histoire de famille où on ne tient pas bien, elle est étalée devant le commissaire de police et devant le procureur de la République. Et puis aussi pour toute espèce d'enquête et de renseignement. Il y a là un métier difficile, délicat, où il faut d'abord l'honnêteté la plus absolue. Et je dois dire que s'il y a dans ce métier quelques fripouilles, il y a des gens extrêmement honorables et d'une conscience très ferme.
Et qui courent souvent de très gros risques.
Oh, vous savez, pas tellement. J'ai été policier pendant 50 ans, je le suis encore. J'ai raté un coup de couteau, j'ai reçu quelques coups de poing, mais enfin, au total, en 50 ans, c'est absolument insignifiant.
Oui, mais vous étiez un policier très spécial, docteur.
Oui.
Docteur Lecart, le crime parfait existe-t-il?
Oui, dans le roman. Dans la vérité, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas pour une raison excellente, c'est que le crime parfait est celui qu'on ne découvre pas. Celui que l'on peut confondre avec un accident ou que l'on peut confondre avec un suicide, et par conséquent, ni les magistrats, ni les policiers, ni les experts n'en ont une connaissance exacte. C'est cela le crime parfait. Mais à une demi-mesure, il y a tout de même le criminel qui est capable de ne laisser aucune trace. J'en ai connu, j'en connais encore. On peut ne pas laisser d'empreinte digitale sur le terrain, non pas en les effaçant, non pas en mettant des gants, ce qui est une précaution absurde, mais simplement en maniant les objets de façon à ne pas laisser de traces de doigts. Le voleur qui manie une bouteille en mettant un doigt dans le goulot et un doigt dans le fond échappera aux recherches, parce qu'il n'y a pas d'empreinte sur les endroits où les agents ont l'habitude de les chercher, c'est-à-dire sur le verre, sur le côté de la bouteille.
C'est presque une consultation, docteur.
Oui, ça je peux le dire, parce que, en gros, mes clients le savent. Il y a, en matière de faux, des possibilités de crime parfait, et ça j'en ai connu. Ce sont des gens qui s'exercent pendant des mois ou des années à imiter une écriture ou une signature en prévision d'un testament qu'ils feront au moment utile et qui leur permettra de s'assurer une succession. Ils ne le font pas d'avance parce qu'ils ne peuvent pas savoir quelle sera la date nécessaire. S'il y a déjà un testament qui précède de peu le décès, il faut que le faux testament ait une date postérieure. Tout cela ne se fait pas, mais il faut s'entraîner et alors ce sont des exercices quotidiens. Ça, ce sont des crimes parfaits.
Docteur, vous parliez à l'instant des empreintes digitales. Quelle est, à votre avis, la valeur des empreintes digitales?
Eh bien, elle est absolue. Elle est absolue. On a parlé de fausses empreintes digitales, on a raconté l'histoire de ce cambrioleur qui mettait l'empreinte de son gros orteil sur l'armoire à glace. D'abord, c'est une trace quand même, mais parfaitement identifiable. Et puis, on a raconté, au temps où M. Lépine était préfet de police, qu'un criminel laissait l'empreinte de M. Lépine partout où il allait. D'abord, c'est pas vrai. L'histoire est fausse, elle est inventée. Et l'autre part, je suis tout à fait certain qu'une fausse empreinte, en tout cas, ne présentera pas les orifices des glandes sudoripares et par conséquent sera détectable par la poroscopie. Avec ça, on peut être tout à fait tranquille. Non, les fausses empreintes, ça n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est la possibilité pour le criminel d'expliquer sa présence sur les lieux. Car il faut bien retenir ceci. L'empreinte digitale ne prouve pas la culpabilité, elle prouve la présence. Si on peut expliquer qu'on est venu pour faire l'aimable avec la bonne ou avec la servante, eh bien, on peut se tirer d'affaire. Et ça arrive. Il y a un certain moment, on voyait régulièrement des gens qui disaient « Oui, j'ai touché cette bouteille, je suis entré dans cette maison, mais je couche avec la bonne. » Et un président correctionnel m'a dit un jour « Peut-on le démontrer ?» Au jeu du monsieur le président, les empreintes des gens qui couchent ne sont pas distinctes des empreintes des gens qui ne couchent pas. Et nous en sommes restés là.
Merci docteur Locard, à la prochaine fois.
C'était Entretien avec Edmond Locard. Deuxième entretien par Léon Zitrone et Madeleine Finidori. Première diffusion sur la chaîne parisienne le 8 septembre 1955. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.